Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique sur divergence-fm.org ou divergence93.9. Nous sommes le jeudi 8 avril et il est 19h. C'est l'heure de votre divergence numérique numéro 70. L'émission d'aujourd'hui sera tournée autour des nouveautés logicielles, des jeux et de quelques événements. Donc nous parlerons pas de nos sujets préférés comme l'Adopi et etc. De toute façon, vous allez voir ça tout de suite dans les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Dans les nouvelles du front, petite nouvelle de dernière minute. Et oui, les animateurs de Divergence Numérique se passent un peu la main en fonction des disponibilités des uns des autres. Donc ce soir, je serai tout seul en espérant ne pas trop vous ennuyer à l'antenne. Nous allons partir sur les nouvelles du front, plutôt sur le domaine libre cette fois-ci. Nous allons parler de Mandriva Linux 2010.1, donc la bêta 1 est désormais disponible. L'éditeur français Mandriva vient de publier la première version bêta de distribution, en Linux bien sûr, en mouture, 2010.1. L'occasion est bien sûr de remettre au goût du jour l'ensemble des composants, tout d'horizon de ce qu'attendent les utilisateurs. Premièrement, GNOME 2.30 fait son entrée par la grande porte, la philosophie de cet environnement de bureau reste la même et les nouveautés représentent donc un palier supplémentaire dans une évolution toujours en douceur. Mode d'affichage partagé dans Nautilus, multiples améliorations dans la messagerie instantanée Empathy pour ceux qui connaissent, synchronisation en tâche de fond des notes avec Tomboy ou encore gestion sécurisée des utilisateurs, la liste est assez riche. Donc côté de KDE, c'est la version 4.4. 2 que l'on trouvera dans cette bêta 1. Version mineure oblige, bien sûr, il s'agit exactement de correction et d'amélioration de la branche 4.4 dont nous avions déjà listé les nouveautés dans nos colonnes. Donc, côté mise à jour des composants et des logiciels principaux, on trouvera l'immanquable Firefox en version 3.6.2, l'OpenOffice.org que tout le monde utilise le 3.2, Chromium, le projet open source sponsorisé par Google et qui sert de base à Chrome, bien sûr Gnash 0.7, Deluge 1.3 et j'en passe. Donc côté technique, certaines nouveautés rappelleront des souvenirs aux testeurs d'Ubuntu 10.04, donc notamment le kernel 2.6.33.1 et pilote nouveau pour les cartes Nvidia, ainsi que le Mesa 7.8. Donc toutes les nouveautés sont disponibles depuis la page présente sur PC Impact ou directement sur le site de Mandriva Linux. Les intéressés qui veulent commencer à regarder dans quelle direction tourne le vent chez Mandriva pourront se rendre sur cette page qui regroupe une série de liens pour télécharger les images au format ISO. Donc la version finale de Mandriva Linux 2010.1 est prévue pour le 3 juin. Je remercie Vincent Herman de PC Impact pour nous avoir offert cette petite nouvelle du front. Je rappelle que toutes les nouvelles du front sont visualisables sur notre site où vous avez donc toutes nos news et bien sûr sur le site de nos partenaires d'articles d'où les liens sont renseignés à la fin de chaque article. News suivante, nous allons parler de OpenTTD. Donc OpenTTD est désormais en version 1.0.0. Donc effectivement, si Pascal était là, on aurait pu un peu parler de OpenTTD. Mais bon, voilà, je vais en parler un peu tout seul, puisqu'après 6 années de développement depuis la version 0.1, et l'arrivée récente des graphismes et des sons en version libre. On verra une prochaine version sur une précédente dépêche sur le jeu, sur OpenTTD. Le clone de transport Tycoon, pour ceux qui connaissent, c'est un petit jeu qui permettait à chaque personne de pouvoir construire sa petite gare, sa petite gare de bus, sa petite gare de train, etc. et d'organiser les transports afin de favoriser l'évolution d'une civilisation. Donc le jeu est désormais entièrement libre, vous pourrez donc l'installer, y jouer directement sur votre distribution préférée ou bien sûr sur d'autres si vous en possédez plusieurs, et ne plus avoir d'excuses pour perdre du temps. Et oui, puisque Transport Tycoon fait partie de ces X jeux qui occupent beaucoup de temps, car ils sont suffisamment passionnants. Je remercie encore une fois LinuxFR de nous fournir ce genre de petites informations. Mais je pense que vous m'avez suffisamment entendu les dernières minutes, donc on va faire un petit passage musical. Donc nous allons goûter un peu la musique d'Azel Asher. La musique s'appelle Printemps, d'ailleurs on l'attend, et c'est sous licence Creative Commons by SA. Et voilà, c'était un petit passage musical bien court de Azel Asher, Printemps, sous licence Creative Commons by SA. Nous retournons maintenant tout de suite sur les nouvelles du front et nous allons parler un peu de sécurité des systèmes informatiques. Puisque lorsque les solutions de sécurité rencontrent l'informatique libre, ça donne les rencontres des solutions de sécurité et d'informatique libre. Donc pour la cinquième année, ACI SSI organise le salon informatique de Maubeuge qui grandit et change de nom pour devenir les RSSIL, rencontre des solutions de sécurité et d'informatique libre. Donc en 2009, les RSSIL ont eu l'immense plaisir d'accueillir pas moins de 2000 visiteurs, 36 exposants et 300 concurrents pour les challenges. Donc alors, en 2010, la recette reste la même, mais les quantités augmentent, comme pour un gâteau que l'on veut partager avec plus de monde. Donc cette année au programme, la partie exposition, avec cette année pas moins de 60 stands disponibles pour des présentations et des démonstrations afférentes au libre, comme pour les éditions précédentes, des LUG et des associations vous présenteront, vous expliqueront et vous aideront dans l'utilisation de nombreux logiciels libres. Les conférences sur divers sujets du libre et de l'économie du logiciel libre aux lois liberticides, en passant par les présentations des outils par les développeurs eux-mêmes. Donc vous aurez la possibilité de discuter avec les créateurs des logiciels. C'est vrai que c'est un avantage qu'on peut avoir dans le logiciel libre à conseiller les développeurs sur des petits changements ou des petites adaptations pour notre entreprise, puisque c'est libre, ouvert et notamment on peut en parler librement. Le challenge de sécurité Acknowledge, avec la participation de membres de divers projets projet, dont Backtrack 4, pour ceux qui connaissent, une distribution Linux servant aux solutions de sécurité et vous permettant d'analyser les solutions de sécurité existantes de vos systèmes informatiques. Donc la création des épreuves seront faites par le Challenge des IUT de France, donc ces trois épreuves applicatives, web et sécurité. Puis la nuit de jeu en réseau, donc un immense réseau, un LAN, un Local Area Network tel qu'on le dit, un immense groupement de geeks aimant les jeux en réseau ou simplement même les jeux libres vont pouvoir profiter de cette nuit de jeu en réseau. Et bien sûr encore énormément d'autres animations seront disponibles lors de cet événement. Le logiciel libre, la sécurité, les challengers, les visiteurs, les exposants et les conférenciers de haut vol, tous les ingrédients d'un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Bon, la question qu'on pourrait me poser suite à ce petit speech, ce serait où ça ? Eh bien, c'est à l'espace Skullfort. Eh bien, c'est difficile à prononcer ça. L'espace Skullfort, rue Jean Jaurès, N39 à 59 600 Maubeuge. Et je ne vous ai toujours pas dit à quelle date ça se passait. C'est normal puisque ça va suivre. Date limite de soumission, c'est le 10 avril 2010 et le déroulement des conférences, 4 et 5 juin 2010. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la RSSIL qui est à www.rssil.org et bien sûr, vous avez tous les liens sur Twitter, des contacts, les informations sur les conférenciers et même quelques photos des précédentes RSSIL. Donc ça, on espère que vous viendrez aussi nombreux puisque les solutions Linux ont réussi à amasser 8000 personnes cette année en espérant que la RSSIL le fera aussi bien. Et ben voilà, j'ai encore suffisamment parlé, je dois avoir soif donc je vais vous donner un peu de musique, le temps d'aller boire un verre d'eau. Donc je vais vous donner The Mythic, le titre de la musique c'est Tristesse Malchanceuse et c'est sous licence Creative Commons by SA.
Thank you.
Et voilà, c'était The Mythic, le titre de la musique était Tristesse malchanceuse, sous l'essence Creative Commons by SC. Donc sachez que toutes les musiques que l'on écoute pendant Divergence numérique est de la musique sous licence ouverte et nous est offert par notre fabuleux site dogmazic.org. Donc allez y voir, allez écouter de la musique et vous pouvez retrouver toutes les musiques de Divergence numérique à la fin du tableau de notre émission sur notre site. De retour sur les nouvelles du front, Oracle rend Solaris payant. Et oui, il fallait s'y attendre à quelques changements suite au rachat de Sun par Oracle. Donc Oracle semble douter de l'utilité d'un Solaris open source et gratuit. Le géant américain devrait rendre l'OS Unix de Sun Microsystems payant via un contrat de service. Jusqu'à maintenant, vous pouviez télécharger et utiliser Solaris, dans sa dernière version stable, la 10, bien sûr, gratuitement. Mais les choses vont désormais changer. Oracle a annoncé que l'OS Unix de Sun, racheté l'année dernière, deviendrait désormais payant. Il faudra désormais souscrire à un contrat de service pour l'utiliser. La messe est dite, en tout cas. Désormais, Oracle Solaris, l'OS est désormais sous le coup d'une période d'essai limitée à 90 jours. Sous l'ère de Sun, le logiciel était utilisable gratuitement et seul le support facultatif était payant, bien sûr. Open Solaris marginalisé, encore une grande question. Depuis l'annonce, beaucoup se plaignent déjà et certains voient dans cette nouvelle la mort annoncée d'Open Solaris. C'est en tout cas comme cela que l'interprète la communauté Open Solaris, puisqu'Oracle a annoncé que toutes les nouvelles fonctionnalités de Solaris ne seront pas ajoutées à Open Solaris. En somme, le géant américain ne distribuera pas le code des nouvelles fonctions à la communauté de développeurs. Pourquoi ? En effet, donner cet avantage à une entité qui est désormais un concurrent, c'est encore une question qui reste entière. C'est ce qu'a confirmé Dan Roberts, directeur de produits Solaris. Il y aura, je cite, il y aura probablement certaines choses que nous ne rendrons pas open source, par exemple la manière dont MySQL gère certaines valeurs ajoutées au sommet de la pile logicielle. Il est important de comprendre que nous devons maintenant donner de la crédibilité à notre investissement en propriété intellectuelle, tout en continuant de proposer Open Solaris, bien sûr. Fin de citation. Difficile. Eh oui, donc pour la communauté Open Solaris, ça sera très difficile de rester très proche d'Oracle Solaris si jamais ils ne reçoivent pas ces informations de code. Donc suite à cet accès de code bridé, bien sûr, certains membres s'interrogent déjà sur la possibilité de travailler sur des distributions non Oracle et donc d'abandonner un projet désormais marginalisé par Oracle, bien sûr. Je remercie le site informaticien.com qui nous a proposé cet article et où cet article est visualisable. News suivante, nous allons parler d'un autre logiciel et cette fois-ci cette news est peut-être un peu plus joyeuse puisque Firefox, nous le savons maintenant, possède une part de marché mondiale de 30%. Mais bon, rien n'est éternel, enfin nous verrons bien. Régulièrement dans l'année, on trouve des études qui donnent les parts de marché de certains produits dans leurs domaines respectifs. L'une des catégories qui fait le plus souvent parler d'elle est celle des navigateurs. Cette tendance s'est accentuée avec la chute d'Internet Explorer et l'avènement de Firefox. Mozilla a souhaité justement comparer l'ensemble des valeurs pour établir des moyennes. Donc Firefox, les parts de marché. L'éditeur a décidé de publier de manière trimestrielle un rapport qui présentera un rassemblement de toutes les données disponibles auprès des sociétés telles que NetApplication, Quantast, StatCounter ou encore Geminus. Le rapport porte un titre d'ailleurs assez intéressant, RAMDAM compatible. Donc ce State of Internet, l'état d'Internet ou l'état pays Internet. Donc c'est ça peut être traduit de plusieurs manières, du moins en français. Donc selon Mozilla, Firefox bénéficierait d'une base de 350 millions d'utilisateurs, avec des parts de marché légèrement différentes en fonction des zones géographiques bien sûr. Chaque pays a ses desiderata particuliers. Mais je vais vous faire un petit classement par ordre décroissant. Donc nous avons l'Europe à 39,2%, ce qui représente environ 152,7 millions d'utilisateurs. L'Amérique du Sud, 31,4%, avec 31,7 millions d'utilisateurs. Afrique, 29,7%, ce qui représente 5,6 millions d'utilisateurs. l'Océanie avec 28%, l'Asie avec 26% et l'Amérique du Nord avec 26%, ce qui représente 100 millions d'utilisateurs. Donc comme nous l'avions déjà remarqué à plusieurs reprises, c'est l'Europe qui mène la danse pour Firefox. Donc on espère que ces tendances vont changer avec le temps, puisque c'est la diversité et c'est l'évolution du libre qui font avancer la technologie. Donc dans les grandes lignes toutefois, les statistiques confirment le succès du navigateur de Mozilla, puisque la moyenne mondiale se situe à environ 30%. News suivante, avant un petit passage musical, nous allons parler de brevets, et plus précisément de brevets Unix. Donc la victoire du libre dans le procès SCO Novel, on ne peut pas enfermer un oiseau en cage, même un manchot, on peut le croire. Donc Linux, Pingouin, Logo, le procès devant le jury entre SCO et Novel, pour avoir laquelle des deux entreprises détient les droits de la propriété intellectuelle du système Unix. Donc c'est arrivé désormais à un verdict, et c'est Novel qui a gagné. Donc voilà, on ne sait pas si c'est le gentil, si c'est le méchant qui a démarré la bagarre, mais de toute façon, nous ne sommes pas dans une cour de récréation, mais plutôt dans un tribunal de justice. Donc l'origine de cette histoire réellement remonte à 1995, lorsque Novell a vendu Unix à SCO pour 149 millions de dollars. La paternité des droits sur le système n'avait pas été clairement établie dans le contrat de vente. Et depuis que SCO l'attaque pour infraction aux droits d'auteur, Novell explique que seule une licence d'exploitation avait été vendue. Le jury leur a donné raison, écartant du même coup le danger pour toutes les versions de Linux utilisant du code Unix. Le PDG de Novell, Ron Osvepian, déclare sur le blog de l'entreprise « Cette décision est une bonne nouvelle pour nous, pour Linux et pour la communauté des logiciels libres. Nous avons longtemps affirmé que ce combat contre Linux n'avait aucune base solide et sommes ravis que le jury, dans une décision à l'unanimité, soit d'accord. Je suis fier du rôle de Novell dans la protection des intérêts de Linux et de la communauté des logiciels libres. » Désormais, SCO désarmé. Donc SCO légalement en faillite depuis 2007, essayait de collecter des droits de licence de brevets auprès de 1500 entreprises utilisant Linux. Le magazine Wired explique que la communauté open source considère SCO comme un troll du copyright, donc un copyright troll bien sûr en anglais, arguant du fait que désormais la seule activité de l'entreprise semble être de faire des procès pour défendre ses brevets. C'est quelque chose qui peut nous rappeler quelque chose. Ce verdict met également à mal le procès de SCO contre IBM pour $1 milliard, au motif que Big Blue utilise du code propriétaire Unix dans sa version de Linux. La seule entreprise légitime pour ce procès serait maintenant Novell, mais elle a longtemps affirmé qu'elle ne s'attaquera jamais à Linux. Au contraire, Novell continuera d'utiliser ses brevets pour défendre le monde du libre. Elle déclare sur son blog être continuellement engagée à promouvoir Linux, ce qui inclut de le défendre sur le front de la propriété intellectuelle. L'avocat de SCO a déclaré à plus précédemment, je cite, « Évidemment, nous sommes déçus, nous étions confiants pour ce procès, mais il y a d'importantes demandes qui doivent encore être examinées par un juge. » Donc, un de gagné, eh ben, ça fait un de perdu. Novell devra se contenter de cette victoire après avoir perdu son procès contre Microsoft, qui l'accusait d'abus de position dominante sur le marché de la bureautique entre 1994 et 1996. Un appel a néanmoins été demandé. Et nous verrons bien la suite un jour. Rapidement, je vais vous proposer un petit passage musical, ce qui nous fera du bien. Et nous allons écouter Tahiti Forever, donc, qui est proposé par Adam Castillo, et sur licence Creative Commons by NC-SA 2.0.
I'm
Et voilà, c'était Adam Castillo, la musique est Tahiti Forever, sous licence Creative Commons by NCSA 2.0. Encore une fois, nous remercions Dogmazic pour cette musique sous licence ouverte que nous pouvons écouter sur Divergence Numérique. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette playlist à la fin du tableau de notre émission. Donc vous voilà de retour sur Divergence Numérique, sur divergence-fm.org ou alors sur le 93.9 si vous nous écoutez sur les ondes. De retour sur les nouvelles du front et cette fois-ci nous allons essayer de parler un peu de jeux vidéo, ce qui peut-être redonnera un peu de dynamisme à cette émission aujourd'hui. Donc l'atelier de jeux vidéo de la médiathèque Émile Zola. Donc, en partenariat avec la médiathèque centrale de Montpellier, Émile Zola, l'association Montpellier Libre propose un atelier de jeux vidéo. Donc, quelques dates et quelques lieux. Donc, l'organisation se fera en 5 séances de 2 heures, de 16h à 18h, le mercredi 7 avril, le samedi 10 avril, le mercredi 21 avril, le samedi 24 avril et le mercredi 28. Donc cela se passera à 218 boulevard de l'aéroport international, 34 000 Montpellier. Vous pouvez y aller donc avec les lignes 1 et 2 du tramway à l'arrêt et vous arrêtez à l'arrêt Place de l'Europe. Une petite description de cette action sur les jeux libres. Donc cet atelier permettra de découvrir les jeux libres disponibles sous différents systèmes d'exploitation, ainsi que la version d'un de ces jeux que j'adore, un jeu sélectionné qui s'appelle Wormux. Est-ce que vous vous souvenez de ce vieux jeu nommé Worms ? Eh bien, Wormux est un jeu vidéo libre, étant inspiré initialement du jeu Worms. Il a été initié en décembre 2002 par Lawrence Azug Moy. Le but de ce jeu est d'éliminer son ou ses adversaires. Donc dans Wormux, les animaux ne sont pas des petits vers, mais des mascottes de logiciels libres. Donc vous avez Firefox, vous avez le Gnou, vous avez Tux, vous avez le petit représentant de Pigdin et j'en passe. Le jeu est en développement, mais il est déjà possible d'y jouer avec de nombreuses armes. La dynamite, le bazooka automatique, la batte de baseball, la téléportation et vivement la banana bombe. Il y a de nombreux terrains disponibles dans différents styles, ainsi que de nombreux avatars différents. Tous issus des logiciels libres, donc GNU, Linux, FreeBSD, KDE, GIMP, OpenOffice.org, Firefox, Thunderbird, Warcrave, NUFW, SPIP, et je vais m'arrêter là, sinon ça serait interminable. Le jeu se joue à plusieurs joueurs humains, par équipe de Wormux interposée, et aussi en réseau. Depuis la sortie de la version 0.8 finale, le jeu en réseau propose deux modes de connexion, soit en mode privé, il faut alors fournir une adresse IP ou un nom de réseau, et bien sûr de port à vos partenaires de jeu, soit public, un serveur d'index permettant de publier la présence de votre partie. Le mode public est parfois indisponible car l'hébergement de serveurs d'index n'est pas assuré par un service professionnel. Donc première séance, découverte des différents jeux libres et initiation à Wormux. Moi je me dis, ça c'est une sainte activité. Deuxième et troisième séance, création de la map pour Wormux sous The Gimp et Inkscape. Donc c'est bien pour les gens qui utilisent un peu Gimp ou Inkscape, qui est la version libre de Illustrator qui permet de faire du dessin vectoriel. Vous pourrez vous amuser à faire vos petites maps. Quatrième séance, la réalisation graphique d'une équipe de verre pour Wormux et finalisation du jeu. Donc un article sur le web, mise à disposition de la map de l'équipe créée en ligne. Donc voir gravage d'un CD et impression d'une jaquette pour mettre le jeu à disposition dans la médiathèque. La réalisation de bruitage aussi sous Audacity sera disponible. Et cinquième séance, conception d'une arme simple. À la fin de chaque séance, une partie en réseau est prévue pour profiter du jeu et des modifications apportées. Donc vous pourrez même tester votre propre Wormux. Donc les besoins logiciels pour l'atelier, bien sûr disponible gratuitement et légalement en téléchargement en utilisation, car bien sûr c'est sous licence GPL, la General Public Licenses. Donc Wormux, le jeu en version 0.9, The Gimp pour le montage d'images, Inkscape pour le dessin vectoriel cité plus tôt, Audacity pour le montage audio et bien sûr Notepad++ pour la modification des codes sources. Donc matériel pour la première séance, un ordinateur qui peut être mis en réseau, des microphones pour les bruitages, et bien sûr, il y aura vidéoprojecteur. Donc je vous invite à participer à cet événement qui se passera donc à Montpellier selon 5 phases. Donc le mercredi 7 avril s'est passé la première phase, le samedi 10, donc ce sera après-demain, le mercredi 21, le samedi 24 et le mercredi 28. Je rappelle l'adresse. Donc cela se passera à 218 boulevard de l'aéroport international, 34 000 Montpellier, disponible grâce aux lignes 1 et 2 du tramway de Montpellier, et ce sera sur la place de l'Europe, le nom de la sortie. Eh ben, je pense que vous allez tous pouvoir vous amuser avec ces petits bruitages de Warmux avec « Oh non !» ou alors les gros coups de batte de baseball qui font décoller ces petites créatures du haut d'une falaise avec le petit bruit très facilement reconnaissable du « tudididididididi ». Bravo, un joli home run. Donc, je ne sais pas si vous me retrouverez pour faire des bruitages parce que c'est un peu pitoyable cette fois-ci. Et je pense que nous allons passer à de la musique, à quelque chose qui vraiment fait du bien aux oreilles. Et nous allons écouter donc Paria Carré. Et la musique s'appelle Pizza Box Method. Et qui est sur une licence No License et qui est directement donc free downloadable, librement téléchargeable. Thank you. et c'était Paria Carré, et la musique était Pizza Box Method, sous aucune licence et disponible et librement téléchargeable. Vous pouvez retrouver donc toute cette musique sur dogmasic.org. Nous repartons sur les nouvelles du front et nous restons dans un cadre un peu ludique. Donc nous allons parler de la publication de la version 1.8 de Battle for Westeros. Donc The Battle for Westeros est un jeu de stratégie libre sous licence GPL version 2 en deux dimensions, se déroulant au tour par tour et comportant des éléments de jeu de rôle. Donc après avoir parlé un peu des mondes de verre de Wormux, nous partons dans un monde de KPDP, d'elfes, de morts-vivants, d'orques et d'humains qui partent à la sauvegarde d'un royaume qui se nomme Westeros. Cette aventure vous mènera dans différents domaines, bien sûr, à l'aide de différents héros, et dans la découverte de toute l'histoire de cette région et de cette contrée qui est bien travaillée. C'est un jeu donc de stratégie en tour par tour, vous sélectionnez vos personnages, vous construisez un peu votre armée, et en tour par tour, vous gérez chacune de vos unités dans l'accomplissement du scénario dans un temps imparti. Donc un an après la publication de la version 1.6, la nouvelle version stable numérotée 1.8, cette fois-ci, a été publiée. Elle offre notamment les améliorations suivantes. Je vous préviens que dans les améliorations, seuls certains joueurs seront capables d'en comprendre l'essence, car certains personnages dévoilés dedans sont des personnages emblématiques, on peut dire. Une nouvelle campagne nommée Delphador's Memoirs, qui est centré sur la jeunesse du magicien Delphador qu'on trouve dans le scénario original. La cohérence de l'ensemble des campagnes a été améliorée, certains scénarios ont été réécrits et améliorés, et il sera possible ultérieurement de jouer à des campagnes en multijoueur, fonctionnalité en cours de développement et pas encore assez stable. Puis, point suivant, l'intelligence artificielle a été corrigée et améliorée. Des ajouts de 5 nouvelles musiques orchestrales, bien sûr, la musique, ça fait beaucoup dans un jeu. Refonte de l'interface utilisateur du mode multijoueur. La barre d'état des unités située à droite de l'écran a été améliorée pour mettre plus en évidence les modifications liées au terrain ou au cycle solaire jour-nuit. Point suivant, la description des add-ons est maintenant disponible dans le gestionnaire de téléchargement. Suivant, des centaines de portraits ont été créés ou remplacés. Et comme annoncé dans les notes de la version 1.6, la gestion des scripts Python a été remplacée par la prise en charge du langage LUA. Plusieurs de ces améliorations sont les conséquences des précédents Google Summer of Code, notamment l'amélioration de l'intelligence artificielle et la possibilité de jouer des campagnes en multijoueur. Le jeu a de nouveau été accepté au GSOC 2010 et l'équipe propose un certain nombre de projets aux étudiants intéressés sur son wiki. Donc les GSOC, c'était les Google Summer of Code 2010. Vous pouvez avoir toutes ces informations sur le site http://wiki.westeros.org/summer-of-code. L'amélioration des graphismes sont, elles, la conséquence du Westeros Summer Art Scholarship, financé par les dons de la communauté, qui a permis de recruter 2 étudiants en art. Si l'équipe maintient son rythme de publication très régulier, la prochaine version stable devrait être publiée, bien sûr, dans un an. Vous pouvez avoir toutes les informations sur Westeros sur www.westeros.org. Et pour cette petite news-là, je n'ai pas de bruitage étrange, car il faut avouer que les musiques de Westeros sont d'un autre acabit. Nous allons maintenant faire une véritable petite pause musicale afin que vous vous reposiez un peu de ces news en vrac. Et donc, nous allons écouter donc Dr. Dub Haunted Volphonic. Et la musique, c'est Soda Deep Undakova, qui est sous licence Creative Commons by NCND. Et c'était Dr. Dub de Haunted Hypnotic. Et la musique, c'était Soda Deep Undercover, donc sous licence Creative Commons by NCND et disponible sur Libre comme l'air, donc sur lclweb.org. De retour sur donc Divergence Numérique avec ma charmante voix pour présenter les nouvelles du front. Nous allons parler du lancement de la Free Cloud Alliance. Donc, quatre éditeurs de logiciels libres français, ILO, non plus connu sous le nom de Lost Oasis, Mandriva, Nexedi et TioLive, ont annoncé cette semaine la formation de la Free Cloud Alliance. Donc, pour proposer une offre globale qui couvre l'IaaS, donc Infrastructure as a Service, et le PaaS, Platform as a Service. Bien sûr, il y a le traditionnel SaaS, Software as a Service, que tout le monde commence à connaître. Donc cette offre s'appuie sur plusieurs logiciels libres, dont Nifty Name, Virtual Data Center, Block Storage Server, Extreme Storage Server et Neo Storage Server. Sont disponibles aussi SLAP, donc Cloud Engine, et TioLive OEM Platform. Donc le composant logiciel Neo Storage Server a été développé dans le cadre du projet R&D collaborative labellisé par le groupe thématique logiciel libre du pôle systématique, donc Neopad. ExtremeOS est un projet de R&D collaborative financé par la Commission européenne. Donc quelques commentaires dans la presse sur IT Channel, InfoWorld et le Mag IT. La Free Cloud Alliance se dit ouverte à tout nouveau partenaire. Alors je vous invite à passer sur le site www.freecloudalliance.org. Donc c'est une bonne nouvelle que ce genre d'action petit à petit se met à se former. Les travailleurs du libre se groupent et se dégroupent dans l'objectif de faire avancer le libre. Nous allons maintenant parler rapidement de la Linuxerie qui s'est réunie chez Crocobio, bien sûr le 8 avril, c'est-à-dire aujourd'hui à 20h dès la fin de l'émission, donc pour les jeudis du libre. Au menu logiciel libre, GNU Linux, actualité du libre et encore d'autres choses. La communauté et les acteurs du logiciel libre de Nîmes et sa région se réunissent chaque second jeudi du mois pour une soirée conviviale. Donc pour répondre à vos questions, à votre curiosité autour du terme des logiciels libres, l'occasion est ouverte maintenant pour vous. Mais l'occasion également aussi de partager ses idées, ses expériences, une table et même quelques boissons. L'ambiance est sympathique et facilite les conversations. La soirée commencera à 20h et prendra fin aux alentours de 23h. Cette soirée donc s'inscrit dans le cadre des Jeudis du Libre en partenariat avec Montpellier Libre qui organise les Last Jeudis sur Montpellier depuis pas très très longtemps maintenant. Donc nous allons faire un rapide petit passage musical avant de terminer avec un petit point de vue sur l'agenda du libre général et la fin de notre émission. Donc nous allons écouter Julian Winter, la musique s'appelle Just Not, qui est en Creative Commons by NCSA.
У меня нет доверия к тебе. И так я не могу больше. больше доверять тебе, понимаешь? Да, я тоже не знаю, почему это так теперь. Это, наверное, мелочи, нет, виноват. Хорошо. Я думаю, лучше всего было бы, если мы больше не встречаемся для несколько времени. Мы должны идти разные дороги. Я только хотела, что ты знаешь. Нет, это тоже неправильно. Пожалуйста, принимай это. Так легче.
Et nous coupons légèrement la musique, c'était Julian Winter, la musique s'appelait Just Not, et elle était sur Creative Commons by NCSA. Donc nous arrivons maintenant à la fin de notre émission, nous allons nous quitter sur un rapide agenda du libre, donc vous avez à Belfort, Rennes, Mulhouse, Poitiers et Brignoles le 9, 10 et 11 des événements sur les libres tels que des rencontres ou alors des install-parties. N'oubliez pas le 13, les conférences sur les protocoles ouverts de téléphone via internet qui se passent à Paris. Et pour le 15, à Paris, vous avez le Surd jeudi Parinux, présenté donc par Parinux, et à Rennes, Braze Entropy Congress. Donc je vous remercie d'avoir écouté Divergence Numérique ce soir. Je passe un grand bonjour à Gilles et à Pascal aussi qui travaillent dans son coin. Merci à Elie Alcaquito qui était donc à la régie. Et ben restez libres et je vous dis donc à bientôt sur Divergence Numérique.
Terrorist Networks. Terrorist states. 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 Terrorist networks.